Chapitre 9 Le mouton de carton. Dans un petit café, se rencontraient, comme par hasard, Tommy et Paolo, qu'un goût identique pour certaines liqueurs, pour la grappa attirait dans cet établissement, dont la grappa, sorte d'eau-de-vie de maranisée, jouissait d'une grande réputation. Les deux hommes étaient devenus des amis à force de petits verres. Ils semblaient bredouiller, l'un de l'anglais, l'autre de l'italien, ne pas se connaître, ne pas se comprendre. Ils avaient l'air, pour la galerie, de s'enivrer au même degré. Puis, l'un reconduisant l'autre, chacun s'accompagnant plus ou moins, ils sortaient, se raidissant à tombant quelquefois, faisant de grands gestes, parlant à la lune, éveillant les chiens qui dormaient, faisant pour eux aux chats courant dans la rue, et ils rentraient chacun chez soi pour se retrouver le lendemain très fidèles devant leur grappa quotidienne. C'était la façon dont Paolo et Tommy transmettaient les renseignements et se faisait passer les ordres de Martin Numa. C'était ainsi que le chevalier Fontis, autrement dit le baron de la Rocca, restait en communication avec le détective. Pendant plusieurs jours, Martin Numa, sous prétexte de découvrir un point de vue convenable pour un grand tableau, s'amusa à faire des pochades, des études d'aquarelle aux alentours. Il cherchait évidemment la ferme dans laquelle se trouvait l'enfant de la Margellina, car il était venu ici en Sicile uniquement pour trouver cet enfant. Il avait frété une carriole sicilienne dans laquelle il installait son bagage d'aquarelliste, son pliant, son parasol et une sorte de petite table. En tant qu'anglaise originale, elle traînait avec elle un panier dans lequel Tommy rangeait tout un attirail de cuisine, tout ce qu'il faut pour faire un lunch, un breakfast, du thé, voire aussi tout ce qu'il faut pour faire passer le déjeuner, le lunch et corser le thé, c'est-à-dire de nombreux flacons de gin, de whisky et autres. Cette carriole était, comme les voitures siciliennes, perchée sur de hautes roues et peinte en couleurs criardes. Les panneaux de la carriole étaient illustrés de scènes tirées de l'histoire, plus ou moins fantastiques de la Sicile, et aussi de tableaux d'histoire sainte. Le cheval était un bon biquet, robuste, malgré ses jarrets nerveux. Il portait un harnachement relevé de clous argentés avec des sonnettes qui tintinnabulaient continuellement. Le cocher, qui s'asseyait sur le brancard de gauche et chantait tout le long de la route, était un brave homme à longue moustache très brune. Pourtant, sur la tête, le long béret rouge des Siciliens. Il allait les bras nus, dans sa chemise de flanelle, avec une culotte retroussée jusqu'aux genoux, qui montrait ses jambes noires et velues. C'était en vérité un Sicilien de vieille et pure race. Inutile de dire que ce Sicilien authentique, qui comptait dans la Sicile des parents qu'on connaissait de tout temps, qui avait même une fiancée dans un village quelconque, était un agent de Martin Numa. C'était lui qui, depuis qu'on avait trouvé dans la chambre de la Margellina à l'hôpital la carte postale du portrait de l'enfant barré de l'X fatidique, c'est lui que Martin Numa avait envoyé immédiatement en Sicile pour préparer sa venue. Lorsque Martin Numa avait dit à la Margellina qu'il aurait son enfant, qu'il le trouverait qu'il saurait le remettre entre ses bras, le tenir à l'abri de toute tentative des ennemis, Martin Dumas avait déjà envisagé sa campagne et rendu possible la découverte du Petit. Il arrivait donc à présent, Sicile, le terrain préparé, l'itinéraire arrêté de façon à perdre le moins de temps possible dans l'accomplissement de ce nouveau plan. Le brave cocher, qui montait sur le brancard de sa voiture pour conduire son cheval à la façon sicilienne, en chantant, savait où menait son cheval. Il savait qui on pouvait rencontrer et connaissait à peu près tout le monde dans le pays. Le cocher s'appelait Pippo. Il emmenait Martin Dumas dans des endroits où simplement il s'agissait de prendre un croquis de paysage. Cela afin de détourner tout soupçon et de permettre, pour le cas où on s'inquiéterait de voir cette Anglaise si ardente à peindre des vues de Sicile, de faire croire qu'il s'agissait seulement pour elle de prendre réellement des études de rochers, d'arbres, de vieux pans de murs, et en somme, tout absolument en dehors de ce qui amenait en Sicile Martin Dumas et ses hommes. On le voit, selon son principe, Martin Dumas n'oubliait jamais de s'entourer de toutes les précautions nécessaires. Mais quand, après avoir fait quelques études plus ou moins intéressantes, il revenait à son hôtel et qu'il avait l'air d'aller prendre du repos, Martin Dumas préparait l'expédition du lendemain avec un but précis de continuer ses recherches. Alors Pippo, ayant reçu le mot d'ordre, la consigne, disait en venant prendre son chef le lendemain, tout fort, tout haut, devant des gens qui pouvaient l'entendre et le répéter, « Signora, moi je vais vous mener aujourd'hui dans un endroit encore plus beau que ce que vous avez vu. » Et Pippo, chaque fois qu'on allait quelque part, désignait cet endroit comme étant le plus beau qu'on pouvait voir. L'Anglaise, au moyen d'une chaise en paille, dont les barreaux étaient peints de couleurs assorties et rehaussés de clous de cuivre, se hissait sur la carriole aux panneaux enluminés. Son domestique Tommy sautait ensuite dans le fond. Pippo allumait une cigarette qu'il collait sur le coin de sa lèvre. Il entonnait une chanson, faisait claquer son fouet, et les voilà tous partis vers la montagne. Après avoir rayonné ainsi quelque temps, après s'être assuré que personne ne les avait suivis, et que leur course à travers la montagne, les vallons, par-delà les collines, n'avait pas été, selon un terme policier, pisté, Martin Dumas jugea qu'on pouvait, sans trop de risques, se décider à atteindre la ferme que Pinot lui avait désignée comme étant celle où se trouvait un enfant ressemblant à celui dont le portrait se trouvait sur la carte postale adressée à la Margellina. Il faut dire que cela n'avait pas été sans mal que Pippo avait pu découvrir cette femme. Martin Dumas, pour faciliter les recherches de Pippo, lui avait confié une réplique de cette carte postale, c'est-à-dire qu'il avait photographié la carte postale de la Margellina et qu'il avait remis un exemplaire du nouveau tirage à son agent Pippo. « Prenez pour point de départ, avait-il dit, le mouton. » Or, ce mouton, en carton, était un joujou d'enfant peu fréquent en Sicile. C'était un joujou acheté par la Margellina en Amérique. Il ne ressemblait pas du tout à ceux plus rudimentaires que l'on voyait entre les mains des petits Siciliens et que les bazars offrent à la convoitise des enfants de l'île heureuse. Il avait frappé l'œil de Martin Dumas. Dans une entrevue avec la vieille nourrice de la jeune chanteuse, il avait fini adroitement par apprendre qu'en effet, Lama Angelina, se trouvant en Amérique, avait envoyé à son enfant ce petit mouton qui lui avait semblé tout à fait amusant et qui devait causer à l'enfant une grande joie. Cela n'avait pas manqué d'être. Pipo, un beau jour, avait rencontré dans un marché un enfant traînant au bout d'une ficelle un petit mouton, oh, qui ressemblait fort à celui que l'on voyait à côté de l'enfant sur la carte postale. Précisément, on avait photographié l'enfant et son petit mouton américain pour montrer à la mère combien son fils avait été heureux de ce cadeau qui avait fait sensation dans le village où l'on gardait le bébé. Mais certainement, à ce moment, personne ne pouvait prévoir l'importance spéciale que tout à coup prendrait ce joujou. Pipo donc suivit les paysans qui gardaient cet enfant, et il fut amené ainsi devant une ferme assez importante dans la montagne. Cette ferme, à vrai dire, se trouvait fort éloignée de la ville dont le nom se lisait dans un des cachets que portait la carte postale. C'est ce qui fait que pendant longtemps, Pipo, ayant fait ses recherches autour de cette ville, n'avait pas encore obtenu le résultat, malgré l'impatience de Martin Luma. Il put enfin lui donner de bons renseignements et lui dire qu'il était sur la voie. Or, l'annonce de la découverte de cette piste par l'agent Pipo coïncida avec le meurtre du comte di Villacervoli. Martin Luma, donc, ce jour-là, se laissa conduire par Pipo dans la montagne vers la ferme où se trouvait l'enfant au mouton américain. Cette ferme portait le nom de Santino. C'était une ferme assez importante, de simple culture de plusieurs hectares, défrichée et cultivée par une famille de très braves gens qui vivaient sur le terrain et faisaient produire cette terre depuis de très longues années. Elle passait de père en fils. La famille se composait de vieux parents, puis de fils mariés qui avaient plusieurs enfants. Avec ses enfants était élevé ce petit garçon qui tenait au bout de la ficelle son mouton blanc américain. Pipo eut l'adresse à un jour de marché, ayant reconnu un des jeunes fermiers, de se lier avec lui au hasard d'un voisinage dans un cabaret, de faire connaissance, de parler chevaux, de parler blé et orge. Enfin, de tout ce qui intéresse un fermier sicilien, surtout de la récolte des tomates, la tomate étant une des productions principales de la Sicile, à ce point qu'il semble que sans tomates, la Sicile ne pourrait exister. Pipo et le jeune paysan du nom de Tommaso devinrent une paire d'amis. Sous prétexte de voir un cheval qui aurait fait l'affaire de sa carriole, Pipo, le cocher, monta jusqu'à la ferme, s'entretint avec les fermiers, visita les écuries, examina le fameux cheval, fit des compliments sur les travaux, admira les plants de tomates, enfin devint un ami pour ces braves gens. Il acheta le cheval, après avoir fortement marchandé, comme il est de coutume chez tous les paysans, et en Sicile surtout. Et c'était ce cheval, d'ailleurs, qui, dans les brancards, aujourd'hui, traînait Martin Numa et Tommy. On pense donc maintenant que Martin Numa, malgré sa froideur et son flegme, ne montait pas sans une certaine émotion vers cette ferme où le conduisait Pipo et dans laquelle il allait enfin voir cet enfant. Il était assez curieux que ce fût sur la tête de cet enfant que reposait le dénouement de tant d'horreurs, de tant de perfidies et d'intrigues si bien ourdies. Ah, une fois de plus, disait Martin Dumas, La plus petite chose aura le plus grand effet. Arrivés à la barrière, fermant un pré où paissaient quelques moutons, sous la garde d'un petit paysan qui jouait du chalumeau, ainsi qu'il est d'habitude depuis que Virgile les a chantés parmi les bergers de Sicile et d'Italie, Pipo sauta des brancards, héla joyeusement l'un des paysans qui se trouvait dans un champ de tomates. Il cria « Ohé, Tommaso, viens, j'ai quelque chose à te dire !» Tommaso, en reconnaissant son ami Pipo, laissa sa bêche et s'en vint joyeusement jusqu'à la barrière. Pipo dit « Mais il y a longtemps que je n'ai eu le plaisir de te voir, alors comme je conduis une dame anglaise qui fait de la peinture à l'eau et qui cherche pour sa collection de souvenirs de Sicile les plus jolis coins de notre île, comme il n'y a pas dans toute la Sicile de plus jolies fermes que celle de ton père, je lui ai dit que je la lui ferais voir. Alors, je l'ai amenée. Elle est dans ma voiture avec son domestique et tout ce qu'il faut pour faire un tableau. En même temps, ça m'a donné le moyen de venir te dire bonjour, te serrer la main et de boire un verre de grappa. » Et Pipo, en riant, ajouta « Car si la ferme de ton père est la plus belle du pays, la grappa qu'on boit ici est la meilleure de toute l'Italie. » « Tu as bien fait, » répondit Tommaso, « et comme cela ne use pas la maison et les arbres de les mettre en peinture, que ça n'abîme pas les champs de tomates de les emporter sur du papier, il n'y a aucun inconvénient à ce que la cliente anglaise entre chez nous et fasse le tableau de tout ce qui lui semblera bon à peindre. » Et il ajouta « Et en même temps, ce sera une occasion pour moi et pour nous autres tous à la maison de déboucher en ton honneur et en l'honneur de la cliente anglaise. Car elle doit aimer aussi les œufs en liqueur. Une vieille bouteille de grappa qui, a-t-il dit, est la meilleure qu'on puisse trouver dans l'île. » Il ouvrit la barrière et, s'approchant de la carriole, s'adressa à l'anglaise en tirant son bonnet et lui dit « Madame, mon ami Pipo a bien fait de vous amener ici. Vous êtes la bienvenue dans la maison de mon père, sur la terre de la famille. » Pipo l'arrêta d'un geste lui disant « Elle comprend pas un mot d'italien. Il faut lui expliquer ça par geste. Tu sais, les Anglais, ça a un langage tout spécial. Ils se comprennent entre eux, mais nous autres, pas possible de les comprendre. » Et il ajouta, « Moi, depuis qu'elle est ma cliente, j'ai fini par apprendre quelques mots et surtout par adopter avec elle un langage de gestes. Nous le comprenons à peu près, d'autant plus qu'elle a une... me paye bien, ce qui veut dire qu'elle est contente. Alors, ça va bien comme ça. » Il se tourna vers l'anglaise et lui fit un dit en désignant son ami. « Tommaso, mon ami !» Il désigna d'un geste toute la propriété et, tapant sur l'épaule de Tommaso, il dit « Tout ça, c'est à son père !» Martin Huma agita ses frisettes grises, inclina la tête plusieurs fois, fit entendre des « Yes, yes, very well, good, good !» Pipo, alors, avec un sérieux imperturbable, dit à Tommaso « Ben, tu vois, elle dit que ça va très bien, que nous lui faisons grand plaisir. Elle te remercie sincèrement. » Tommaso dit avec admiration « Oh, mais tu commences à bien parler l'anglais !» Et il prit le cheval par la bride et lui fit franchir la porte de la ferme et l'amena jusque devant la maison. Au bruit des grelots du collier de cheval, la vieille mère était sortie avec une jeune femme et derrière elle venait une ribambelle d'enfants bronzés par le soleil, à demi nus, les pieds sans souliers, bien portants, sales et magnifiques. Pipo expliqua à la vieille paysanne ce dont il s'agissait. La visite de sa cliente, le but de la promenade, et dit que Tommaso avait déjà déclaré qu'il ne retrouverait pas trop indiscret de lui avoir amené cette visite, car c'était pour lui d'abord un plaisir de venir à la ferme et de voir ses bons amis. Il ajouta que l'anglaise n'était pas gênante, qu'on allait lui faire voir la propriété, la ferme, qu'elle s'installerait dans un coin, qu'elle ferait sa peinture tranquillement et qu'on la reverrait que quand l'aquarelle serait finie. La vieille femme, puis la jeune qui était la femme de Tommaso, dirent bonjour à l'anglaise, lui souhaitant la bienvenue, apportèrent un escabeau pour l'aider à descendre de voiture. Ce ne fut pas sans rire qu'ils virent l'anglaise allonger ses grandes jambes et ses énormes pieds, les mettre sur cet escabeau et descendre ainsi de la carriole. L'anglaise remercia dans sa langue et toujours Pipo, avec son sérieux, faisait l'interprète. Puis les deux femmes, plaçant entre elles l'anglaise, que suivait à quatre pattes, impassible, raide, Tommy, portant les ustensiles de peinture et le pliant, ils se rendirent d'abord dans le jardin, puis sous les chauves-oliviers. Devant une échappée d'où l'on apercevait un coin de la maison, sur laquelle grimpait un rosier garni de grappes de roses blanches à teintes rosées exquises, l'anglaise étendit ses grands bras et eut un cri, une exclamation. Pipo aussitôt traduisit. « Vous voyez, elle trouve que c'est beau, elle dit qu'elle va peindre ça. » En effet, Tommy déploya le pliant, accrocha le parasol et installa la petite table. L'anglaise aussitôt ouvrit sa boîte d'aquarelle, sortit ses pinceaux, prépara une feuille et commença à crayonner l'esquisse. Autour d'elle, très curieusement, ouvrant de grands yeux et se fourrant quelque peu les doigts dans le nez, la marmaille était accourue, ébahie, regardant tous ses préparatifs. L'anglaise alors sembla seulement s'apercevoir qu'il y avait des enfants. Elle leur dit bonjour de la main, essayant d'attirer à elle le plus audacieux qui était le plus près, pour lui faire une caresse, mais les enfants s'éparpillèrent comme une volée de moineaux. Ils semblaient avoir une sainte terreur de cette dame à l'immense chapeau, aux lunettes jaunes, aux grandes frisettes grises, qui avait des bras si longs et des mains d'une telle dimension. Pipo en rattrapa un au hasard, essaya de lui faire comprendre que la dame n'était pas méchante, au contraire, et le persuada enfin de lui donner une poignée de main. Puis il traduisit encore ce que disait l'anglaise à la mère. « Elle trouve que l'enfant est très joli et elle vous en fait des compliments sincères. » Puis il ajouta, « Bon, maintenant, il faut laisser ma cliente à son travail, nous rentrons à la ferme. » Peu après, la vie normale de la ferme était reprise. Chacun était retourné à ses occupations. Pipo accompagnait son ami dans le champ de tomates où il allait serrer la main du vieux père et des autres frères qui bêchaient chacun dans un sillon. Les enfants de loin, couchés dans l'herbe ou se tenant au pied des oliviers, regardaient l'anglaise peindre. Quand l'heure du déjeuner fut venue, Tommy, qui préparait le breakfast de sa maîtresse, avec autant de sang-gêne s'il se fût trouvé chez lui, sans plus s'occuper des regards curieux des paysans, servit le déjeuner et fit le café. Il vint ensuite à la ferme avec une bouteille de vieux whisky, disant que l'Anglaise, pour remercier ses hôtes de leur bienveillant accueil, les priait de trinquer à sa santé. Il va sans dire que Pipeau traduisit encore ce que disaient les domestiques en anglais en prenant la bouteille et en versant dans les verres le liquide qu'elle contenait. L'introduction d'ailleurs était facile. Les enfants, après déjeuner, étaient revenus voir la dame qui peignait. Elle tenait, en prévision de cette visite, des châteaux, des biscuits, quelques friandises, dont elle fit la distribution aux marmots. Ils étaient maintenant à peu près apprivoisés. Puis elle se remit tranquillement au travail, et la journée s'écoula ainsi. Le soir, elle n'avait pas achevé tout à fait son tableau, et elle demanda, ou plutôt elle essaya de faire comprendre, qu'elle serait désireuse de revenir. Pipeau traduisit, exprimant son désir. Tommaso répondit, affirmant que ses parents étaient enchantés de revoir la dame anglaise et lui réservaient le même accueil qu'aujourd'hui. Il offrit même de garder sous sa responsabilité la boîte d'aquarelle et tout l'attirail de l'anglaise jusqu'au lendemain. Le lendemain, Martin Huma revint apportant de nouvelles friandises pour les enfants, des joujoux achetés dans un bazar de la ville, puis une bouteille d'une autre liqueur à laquelle les parents réservèrent le même enthousiasme que les enfants aux joujoux. L'anglaise, maintenant, n'était plus appelée l'anglaise, mais la bonne dame. Les enfants, tout à fait apprivoisés, se laissèrent même caresser par elle et vinrent jouer jusqu'à ses pieds. Ils osèrent lui parler et manifestèrent leur admiration de voir sur le papier reproduite la maison de leurs parents. Au retour à son hôtel, Martin Huma se déclara enchanté de cette journée et pensa avoir fait un grand pas dans la réussite de son plan. Comme il rentrait dans sa chambre vers le soir, il remarqua, lui à qui rien n'échappait, que quelque chose avait été dérangé dans l'appartement. Il appela Tommy en anglais, le questionna et lui demanda si c'était lui qui avait déplacé un meuble, qui avait dérangé la petite table, laquelle ne se trouvait plus dans le coin où elle était d'habitude. Tommy déclara que non et se montra également surpris de ce changement apporté dans la chambre, car lui, il n'avait touché à rien depuis le matin. « C'est donc, dit Martin Huma, en mon absence, qu'on est entré ici et qu'on a fouillé, sans doute, dans ce qui m'appartient, dans ma valise, dans mes effets. » Cette constatation causa quelque émotion à Martin Huma. Il se mit à étudier la chambre. Son inséparable loupe entra en jeu et il regarda la serrure. Il n'y découvrit rien d'anormal. Et dit « Non, on n'a pas forcé la porte, donc on a une double clé, puisque j'avais emporté la mienne. » Son sac de voyage, qui tenait toujours fermé par un cadenas secret, ne portait non plus aucune trace pouvant amener une révélation quelconque. Bon, il avait été déplacé, mais il ne portait pas le moindre indice d'ouverture et ne pouvait permettre de supposer qu'on l'avait forcé. Martin Huma pensa qu'on avait sans doute essayé mais qu'on n'avait pas pu trouver le secret et qu'avec une clé ordinaire, il avait été impossible de l'ouvrir. D'ailleurs, on n'y aurait constaté rien qui pût éclairer les curieux, et par contre curieux, Martin Dumas entendait les ennemis. Néanmoins, Martin Dumas se dit, si ce sont des gens de l'hôtel qui ont essayé, par curiosité pure, de voir ce que contenait le bagage, dit l'anglaise, ça va bien. Mais si ce ne sont pas les gens de l'attel, c'est donc qu'on a trouvé ma piste et que nous sommes filés. Martin Dumas se promit le lendemain de faire semblant d'aller, comme de coutume, prendre un croquis dehors, puis de revenir subrepticement à l'hôtel et de voir quels étaient les gens se trouvant dans la maison, d'étudier plus sérieusement le personnel et les quelques consommateurs qu'il avait aperçus dans les salles du bas, qui servaient de tables à manger, même de buvettes. Mais il ne voulait en aucune façon laisser deviner qu'il avait pu s'apercevoir de la tentative qui avait été commise chez lui. S'il n'y avait qu'indiscrétion, le mal n'était pas grand. S'il y avait autre chose, il saurait bien le voir, le découvrir et remettre tout au point. Néanmoins, Martin Dumas avait pris toutes ses précautions pour que, lors même qu'on eût fouillé dans les bagages, dans tout ce qu'il traînait avec lui, rien ne fût susceptible de révéler sa vraie personnalité. Tout le linge, tout ce qu'il emportait, était linge de femme, portant des marques anglaises, venant directement de Londres, et ne permettait pas de supposer que la propriétaire de tous ces effets était un homme et non une femme. Néanmoins, soupçonneux et méfiant au suprême degré, Martin Dumas, toujours en éveil et désireux de ne pas se laisser surprendre par quelque événement que ce fût, changea lui-même la disposition de sa chambre et déplaça le lit, le roulant, sans faire le moindre bruit, dans un angle opposé. De la sorte, il se trouvait presque en face de la porte, et sautant du lit d'un bond, il pouvait ainsi tomber sur qui entrerait chez lui la nuit. Et la nuit se passa sans incident. Martin Dumas put se dire où que ses préoccupations avaient été devinées et qu'elles avaient écarté celui ou ceux qui voulaient entrer chez lui, ou bien que personne n'avait ce dessein. Il va sans dire que c'était Tommy qui faisait sa chambre. Il se pouvait que ce fût lui qui eût dérangé tout cela, sans s'en rendre compte. Martin Dumas ne s'arrêta pas plus longtemps à ce détail. Il fit cependant, cette fois avant de quitter la chambre, des marques et disposa certains témoins qui lui permettraient au retour de se rendre compte exactement si on était entré dans sa chambre. Puis il partit vers la ferme de San Tito. En route, naturellement, Martin Dumas, pendant que la voiture roulait et qu'on ne pouvait entendre leurs paroles, discuta avec ces deux agents de point important. Si on est entré chez moi par simple curiosité, dit-il, parce que l'hôtelière ou des domestiques femmes, voire un domestique homme, se sont avisés de vouloir examiner les effets appartenant à l'anglaise pour en rire, s'en amuser, oh, cela n'a aucune importance. Mais ils en sont capables. Mais si quelqu'un, en dehors de la domesticité, a voulu pénétrer chez moi, c'est qu'on tenait certainement à reconnaître l'anglaise, à savoir qui elle était, qui c'était en somme, à se livrer chez elle à un espionnage sérieux. Non, c'est possible, chef. Dans ce cas, il faut admettre qu'on soupçonne mon identité, que nous sommes suivis, Et qui s'intéresserait à nous, à moi, chercherait à me retrouver, à me découvrir, aurait pu me suivre jusqu'ici, sinon ceux que nous devons fuir. Le problème était grave, en effet, et la situation devenait extrêmement intéressante. Martin Dumas ne cacha pas à ses hommes combien il était inquiet de cela. Cependant, Pipo répondit à son chef, « Oh, je m'étonne grandement que cela ait pu se produire, et je suis plutôt porté à croire qu'il s'agit d'une simple curiosité des gens de l'hôtel. » Comme vous le disiez, chef, on a probablement voulu rire de l'anglaise, car vous savez que dans tous les pays du monde, on aime ainsi rire de ces bonnes anglaises qui promènent au hasard de leurs longs pieds et leurs caricaturales personnes, qui sont d'ailleurs les meilleurs gens du monde, mais qui, avec la sympathie, font aussitôt naître le rire. Vous continuez, n'est-ce pas, à faire bonne garde, à veiller tout autour de l'hôtel ? Oui, j'ai sans cesse surveillé les alentours de la maison. Je connais tous les visages que l'on aperçoit aux alentours. Bon, je suis le camarade de tout le monde et il n'est pas venu une figure étrangère depuis que vous êtes là. » Ces paroles, qui eussent rassuré tout autre que Martin Dumas, ne le tirèrent pas d'anxiété. Cependant, à son habitude, toujours prêt à lutter de quelque façon que ce fût, à combattre qui que ce fût, il dit « Eh bien, nous verrons ce dont il s'agit. Et ma foi, nous saurons, je l'espère une fois de plus, être au-dessus de tous les événements imprévus. » La route s'acheva comme d'habitude. L'anglaise sur son banc, regardant avec sa jumelle le paysage, regardant, admirant les alentours, mais au fond, inspectant et fouillant tous les recoins de la montagne. Tommy derrière, raide, impassible, et en avant sur ses brancards, ce bon Pipo qui chantait de plus belle. Cependant, jouer ce rôle de l'anglaise était pour Martin Dumas en quelque sorte un supplice, car il ne pouvait, il lui était défendu, sous peine de trahir immédiatement son personnage, de griller la moindre cigarette. Et sans cigarette, Martin Dumas n'était plus Martin Dumas. Il lui fallait, pour arriver de temps en temps à fumer une de ses cigarettes, prendre des précautions énormes et le concours absolu de ses deux agents. Mais comme Martin Dumas peignait, quand il se trouvait dans un endroit où on pouvait le voir d'un peu loin, où quelques curieux en passant pouvaient s'arrêter devant son aquarelle, Martin Dumas était obligé de se priver de cigarettes, et alors il endurait un supplice. Mais, homme de devoir, il supprimait la cigarette, et pour donner le change à ses habitudes, détourner sa manie, il grignotait des bonbons anglais ou mâchelait un pinceau. Ce jour-là, donc, il revint à la ferme de Santino où le père accueil cordial lui fut réservé par toute la famille de l'ami Tommaso. Il avait apporté de nouvelles friandises pour les enfants qui maintenant, sachant bien que la visite de l'anglaise serait pour eux une source de douceur, ne se montrèrent plus farouches et accoururent comme des moineaux privés, se ranger autour d'elle et, assis dans l'herbe, ils se mirent à la regarder peindre en attendant la distribution de bonbons et de gâteaux qu'elle ne pouvait manquer de leur faire. Il s'agissait pour Martin Dumas de discerner dans cette douzaine d'enfants appartenant au fils de fermier quel était celui de la Margellina. Pipo, en effet, avait reçu la confidence de son ami Tommaso disant que l'un de ses enfants avait été mis ici en nourrice, mais Tommaso ne lui avait pas désigné. C'était donc à Martin Dumas, aujourd'hui, à découvrir, dans ce petit bataillon, quel était celui qu'il venait chercher. Dans la journée, les enfants, désormais tout à fait apprivoisés pour reconnaître la bonté de la bonne dame, avait-eu pour la remercier de leur donner tant de sucreries, l'idée d'aller lui cueillir des fleurs, d'apporter des bouquets à la bonne dame qui les récompensait toujours d'une friandise. Puis, désormais, plus confiants, ils apportèrent, pour s'amuser autour d'elle, leurs jouets. Une pelle, une brouette, un bâton à tête de cheval. Et ce ne fut pas dans une certaine émotion que Martin Dumas vit paraître derrière un des plus petits qui le tirait par une ficelle, le mouton photographié que l'on retrouvait sur la carte postale. L'enfant qui tirait ce mouton ressemblait en effet à celui dont le portrait causa une telle émotion à la jeune chanteuse à l'hôpital, à la Margellina. Mais l'enfant dont on avait fait le portrait avait été pour cette occasion-là peigné, lavé, frisé et vêtu de jolis habits. Or, ici, tous les marmots étaient dépenaillés, la moitié nue, pas frisée du tout, ni débarbouillée, extrêmement sale, et en somme, la reconnaissance était, pour ainsi dire, impossible. Le seul point de repère, donc, pour Martin Dumas, était ce mouton qui, en effet, devait être exactement celui de la carte postale. Pipo aurait bien voulu questionner son ami Tommaso et se faire désigner l'enfant. Mais c'était justement ce qu'il fallait éviter de faire, afin de ne pas soulever le moindre soupçon, car les Siciliens sont extrêmement méfiants, et peut-être une question du Pipo, même posée de la façon la plus adroite, et qui eût pu réussir partout ailleurs, ici, devait détruire tout le bénéfice des démarches faites jusqu'à ce jour. Il fallait attendre du hasard seul la solution de ce problème auquel tenait Martin Dumas et qui semblait toujours glisser sous ses doigts. Mais Martin Dumas pensait que ce ne serait là qu'une question de jours et il espérait, à force de patience, pouvoir obtenir cette solution. Il pensa que l'aquarelle ne suffisait pas et, trouvant qu'il ne fallait pas faire durer trop longtemps une pareille enquête, ni revenir trop souvent dans cette ferme de San Tito, même pour peindre les points qui paraissaient si jolis, Martin Dumas imagina d'ajouter à sa peinture l'attrait de la photographie. En revenant le soir, sans avoir encore obtenu la solution de ce qu'il désirait tant connaître, il dit à ses agents « Maintenant que je vais peindre la maison, je vais photographier les autres, prendre les enfants en groupe, puis les uns après les autres, et je saurai ainsi peut-être me faire révéler par les parents, me faire désigner celui des enfants qui n'est pas leur fils, mais qui est simplement leur nourrisson. » Le moyen, en effet, était très adroit. Martin Dumas, donc, se disposa à revenir le lendemain, non plus seulement avec son attirail d'aquarelliste, mais avec son appareil photographique, tout chargé, tout prêt à prendre le portrait de ces braves Siciliens. En rentrant dans sa chambre, il regarda avec la plus grande attention dans tous les coins, sur tous les meubles, partout, cherchant à voir s'il découvrait des indices quelconques, lui disant, comme la veille, que quelqu'un était entré chez lui. Et à son grand étonnement, comme la veille, il remarqua que ce qui avait été dérangé se trouvait encore dérangé de la même façon. Martin Dumas se dit alors que certainement il y avait une intention voulue dans ce fait, et il commença à concevoir une fort grande inquiétude. Dans la campagne, il avait préparé, en coupant une branche, un coin de bois. Il avait taillé cette branche en sifflet. Il glissa ce coin sous la porte, l'enfonça doucement de façon à empêcher la porte de s'ouvrir sans une forte poussée. Évidemment, comme engin de sûreté, c'était absolument rudimentaire. Mais cela suffisait néanmoins à Martin Dumas pour être arraché à son sommeil par le bruit même léger Que ferait celui qui voudrait entrer chez lui en forçant la porte retenue par cet obstacle? Martin Huma aurait donc le temps de se mettre en garde, de se défendre et de parer toute attaque, toute surprise. Dans la journée, Martin Huma avait fait acheter par Tommy, que Pipo accompagnait dans un bazar de la ville, un jouet d'enfant dans lequel se trouvait un sifflet qui par pression rendait un sifflement, imitant de fort loin d'ailleurs l'aboiement d'un chien. Martin Huma avait défait ce jouet et gardé simplement le sifflet, et il appliqua, au moyen de punaises à dessein, ce petit instrument de musique rudimentaire à la porte entre le chambranle et le battant. De sorte que si on faisait une pesée sur le haut de la porte, le mouvement de pression aurait fait agir le sifflet comme si on l'avait pressé avec les doigts. Le sifflet aurait fait entendre sa musique et Martin Huma ne pouvait manquer encore de s'éveiller. Ayant enfin pris ses dispositions, Martin Huma se mit au lit, décidé à prendre quand même du repos et ne voulant pas se fatiguer par une veille qui pouvait être, au demeurant, sans résultat.